enceinte et TV connectée.
Dans la vie, il y a les gens qui pensent d'abord à eux et ceux qui pensent d'abord aux autres. Et puis, il y a ceux qui, en pensant à eux, agissent aussi pour les autres. En faisant un don IFI à la Fondation de France, vous réduisez votre impôt sur la fortune immobilière tout en agissant pour les causes qui vous tiennent à cœur, comme l'aide aux plus démunis, la recherche sur le cancer ou la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes.
France Inter, il est 19h. Et 19h, c'est l'heure de votre journal. Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. À la une ce soir, le modèle français de la fin de vie va-t-il devenir plus permissif que prévu, avec un accès plus large à ceux qui y auront droit ? Des verrous ont sauté, regrettent les défenseurs du texte initial. Les pharmaciens de garde sont en grève ce week-end pour dénoncer notamment la pénurie de médicaments. Témoignage dans un instant. À la une également, le dossier calédonien. Nous sommes encore loin de l'apaisement, s'inquiète la maire de Nouméa. En Turquie, manifestation d'enseignants aujourd'hui contre l'intrusion du politique et de la religion dans les programmes scolaires. Et puis le festival de Cannes, pour éviter la foule et le tumulte, eh bien nous vous livrerons un petit secret pour déjeuner en paix. Un restaurant au calme que, pour l'instant, seuls connaissent les initiés. Enfin, le temps de demain dimanche, Magali Rochereau, avec des averses et du tonnerre sur le sud-ouest.
Oui, Eric, toujours un ciel bien instable sur la suite de votre week-end et des températures de saison.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Le projet de loi sur le droit à mourir a-t-il été vidé de son sens initial ? C'est le reproche que formule une partie des députés qui ont travaillé sur cette réforme. Ce qui a changé dans le texte qui vient d'être approuvé en commission, c'est le critère qui ouvre le droit aux malades. Bonsoir Victor Dolande.
Bonsoir.
Dans la nouvelle formule, pour avoir accès à cette aide à mourir, on ne parle plus de pronostic vital engagé à court ou moyen terme, mais d'affection en phase avancée ou terminal. Dans les faits, Victor, ça change quoi ?
Alors en fait, des députés estimaient que le moyen terme était trop flou, notamment pour des patients atteints de maladies neurodégénératives dont l'évolution est difficile à prévoir. C'est pour cette raison qu'ils ont préféré la notion de phase avancée ou terminale pour laisser plus de liberté de choix aux patients. Le gouvernement estime qu'il y a une rupture d'équilibre de la loi, notamment parce que le terme de pronostic vital aurait lui aussi été retiré. Faux, rétorque le rapporteur du texte, le député Modem, Olivier.
Nous avons gardé le concept d'affection grave, donc entraînant le pronostic vital. Simplement, nous avons voulu enlever cette notion du moyen terme qui est contestée par tout le monde en mettant une formule en phase avancée au terminal qui déjà existe dans le code de la santé publique.
La présidente de la commission sur la fin de vie, Agnès Firmin-Lebaudeau, renvoie la balle aux parlementaires. Ils devront rééquilibrer le texte selon elle.
Là, nous en sommes dans la première lecture en commission, donc le premier dépôt d'amendement qui permet de modifier le texte qui va arriver ainsi modifié dans l'hémicycle le 27 mai et charge aux parlementaires de le remodifier afin qu'il parte au Sénat.
Enfin, précisons que les autres critères n'ont pas été modifiés. Pour accéder à cette aide à mourir, les patients devront être majeurs, aptes à manifester leur volonté de manière libre et éclairée et présenter une souffrance insupportable au traitement.
Et donc les débats se poursuivront à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai. Dossier suivi par Victor Dolande. 13 jours après la fusillade qui avait fait 2 morts dans les rues de Sevran en Seine-Saint-Denis, un suspect de 49 ans a été présenté cet après-midi devant le juge d'instruction dans l'attente d'une possible mise en examen. Son casier judiciaire compte plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants et extorsion. Gérald Darmanin avait promis de décorer le policier qui a tué l'auteur de l'incendie vendredi matin dans la synagogue de Rouen et qui avait menacé un policier, eh bien le ministre fera cette cérémonie lundi lors d'un déplacement à Rouen. Donc Gérald Darmanin décorera également les policiers et les sapeurs-pompiers primo intervenants. On est encore loin d'un apaisement. Les mots aujourd'hui de la maire de Nouméa, alors qu'un homme a été tué la nuit dernière dans un échange de coups de feu sur un barrage, le 6e mort dans l'archipel. Quant à la réforme constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres, votée par l'Assemblée et le Sénat, elle attend désormais d'être adoptée par le Congrès avant la fin juin, disait le chef de l'État, mais les opposants crient au coup de force institutionnel. Et compte tenu de cette tension, eh bien, rien ne presse désormais. C'est ce que dit le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier.
il faut être arrivé en Nouvelle-Calédonie avant 1998 pour pouvoir voter. Et on comprend que ce qui était acceptable en début des années 2000 ne l'est certainement plus aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont nés en Nouvelle-Calédonie mais qui n'ont pas le droit de vote. C'est un système tout à fait exceptionnel qui est propre à la Nouvelle-Calédonie, ce qui lui permet d'avoir une citoyenneté calédonienne justifiant justement ces mesures dérogatoires au droit de vote, mais qui doivent évoluer et elles vont évoluer. Tout le monde le sait, que ce soit les indépendantistes ou les loyalistes, ils sont d'accord pour faire évoluer les choses. Dans certaines négociations, le rapport de force est parfois un élément nécessaire. Cela ne marche pas avec les indépendantistes, avec les Kanaks. Il faut laisser du temps au temps. La méthode est fondamentale. Il faut écouter les indépendantistes et il faut que les solutions soient concertées. On les trouve par consensus, qu'elles viennent de la part des indépendantistes pour que tout le monde puisse se mettre d'accord.
Les syndicats de pharmaciens appellent à la grève des gardes en ce week-end de Pentecôte. Grève pour dénoncer notamment la pénurie de médicaments. Une pénurie qui inquiète les patients et qui stresse aussi les pharmaciens durant les gardes. Exemple dans la commune d'Agneau, c'est dans la Manche, à la pharmacie du Bocage. La pharmacienne Magali Martin ressent ce stress face à la pénurie d'antibiotiques, d'insuline et autres médicaments d'urgence.
C'est un vrai stress. Ce week-end, nous assurons la garde de dimanche. Mon associé va être au comptoir pendant 24 heures d'affilée, à chaque ordonnance, avec le stress de pas savoir si elle a ce qu'il faut. Dans la journée, c'est encore possible de rappeler le prescripteur. À partir de 22 heures, on peut joindre personne. On a toujours le soutien du 15 dans le doute, mais le pharmacien est seul avec sa prescription face à son patient pour la nuit, avec un stock déficient, c'est une source de stress. Après, on n'a pas refusé la garde, on va la faire. Pourtant, il y avait un préavis de grève des gardes pour ce week-end, on va assurer notre garde. On y fera, mais c'est un stress énorme. Tout le monde est sur le pont. Nous, on a créé des groupes WhatsApp sur tout le bassin de Saint-Lô entre les pharmaciens pour pouvoir se dépanner. C'est une ordonnance sur deux où il manque un médicament. Hier, j'ai eu une ordonnance, j'avais rien. Non, et c'est du stress.
Témoignage au micro de France Bleu Cotentin. Une alerte à la bombe cet après-midi au palais du Festival de Cannes. Alerte finalement levée sans plus d'émotion. Et pour ceux qui recherchent le calme pour aller déjeuner ou dîner, eh bien les habitants et certains acteurs aussi ont leurs habitudes secrètes. Eh bien on vous emmène au restaurant ce soir chez Fred Lécaillé, la cantine secrète de Cannes, pour se détendre et manger des crustacés à moins de 30 minutes de la croisette. France Bleu Azur, reportage signé Marie Boéda.
Une terrasse baignée de soleil, un propriétaire avec une barbe de 3 jours, calamar, poulpe, crabe dans les assiettes et un mot d'ordre.
C'est la discrétion qui fait que les gens ne savent pas forcément ce qui se passe ici. Le deal, ils viennent ici pour être tranquille.
Ils, ce sont des acteurs, des producteurs présents au Festival de Cannes qui viennent passer un peu de temps loin des flashs, des photographes. Alors mieux vaut garder le silence sur leur identité. Mais au bout de quelques minutes, Fred lâche un nom.
Hier, on avait Ramzi, comme ça c'est encore plus simple. Avec Ramzi, ils étaient 22. Ici, ils sont un petit peu libérés. On n'a pas de passage. C'est vraiment un petit cocon. Ils ne se cachent pas.
On n'en saura pas plus. Mais alors, pourquoi viennent-ils chez Fred ?
On apporte notre coin de Méditerranée. On parle poisson, on parle mer.
Ils parlent mer sur la place de l'étang, qui accueille aussi un terrain de pétanque.
Donc ça finit automatiquement au bout, là. Ce qui est marrant, c'est que les dames, elles arrivent en talons au début, toutes bien belles, bien fraîches, et ça finit sur le terrain de boule avec les talons aiguilles. Donc c'est très folklore.
Et pour pointer, tirer et déguster des crustacés en talons aiguilles, il va falloir attendre. Le resto de Fred est complet jusqu'à la fin du festival.
Le calme, donc, devenu le vrai luxe durant cette quinzaine où la ville de Cannes passe de 70 000 à 230 000 habitants.
France Inter, Éric Delvaux.
En Turquie, quel avenir pour l'école laïque ? Des enseignants ont manifesté aujourd'hui à Istanbul, à l'appel du principal parti d'opposition social-démocrate, pour dénoncer donc l'emprise croissante du régime sur l'éducation nationale et tout particulièrement son instrumentalisation à des fins politiques et idéologiques. À Istanbul, Anne Andlauer.
Non au programme rétrograde, lit-on sur les pancartes. Les nouveaux programmes scolaires turcs, qui seront appliqués dès la rentrée prochaine, ambitionnent d'éduquer des individus vertueux. Ils foisonnent de références à la morale, aux valeurs, au patriotisme et à la famille. Yasemin, qui enseigne depuis plus de 20 ans dans des écoles primaires, s'en désole.
Chaque année, les programmes s'éloignent de plus en plus de la laïcité. Je ne suis absolument pas contre la religion. Mais que la religion imprègne ainsi de plus en plus notre enseignement au détriment de la science et de la laïcité, c'est inacceptable.
Autre tentative de crispation, l'intervention dans les écoles depuis la dernière rentrée d'imams en tant que conseiller spirituel. Yachar, un enseignant à la retraite, affirme que le président Erdogan veut abolir l'école laïque créée il y a 100 ans par le fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk.
Si vous mettez les théologiens dans les écoles qui devraient être réservées aux enseignants, vous faites courir un risque énorme à l'avenir de ce pays. Atatürk a même quasiment disparu des programmes.
Le débat sur les programmes met toutefois en lumière de profondes divisions au sein du corps enseignant. Le principal syndicat proche du pouvoir réclame à l'inverse davantage de références religieuses et ce, dès l'école maternelle.
À Istanbul donc, le reportage d'Anne Andlauer. Stable, positif, mais grave, l'état de santé du Premier ministre slovaque Robert Fico, touché par 5 balles tirées à bout portant il y a 3 jours. Le tireur supposé est en détention provisoire. L'actualité au Proche-Orient avec à l'instant l'armée israélienne qui annonce avoir rapatrié le corps d'un otage récupéré à Gaza. En Géorgie, la présidente Salomé Zourabichvili préfère mettre son veto à la loi controversée sur l'influence étrangère, une loi qui a suscité bon nombre de protestations, en masse d'ailleurs, dans ce pays du Caucase. À moins de 10 semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques, gros plan ce soir sur les épreuves de BMX. BMX, des figures de style à vélo, poussées à l'extrême, des courses de vitesse aussi. On vous emmène au BMX Race, une course de vélo sur une piste de 400 parsemé de virages et de bosses, avec de réelles chances de médailles pour l'équipe de France au JO de Paris. Des Français qui tentent un podium aujourd'hui aux États-Unis, championnat du monde de Rock Hill. La concurrence est vive, 6 concurrents sur la ligne de départ et à la fin, seulement 3 billets pour Paris, Fanny Lechevestrier.
Un problème de riche, diront les plus envieux, le revers de la médaille d'une nation dominante pour le sélectionneur Julien Sastre.
Oui, c'est un casse-tête forcément, mais je me sens quand même privilégié. Cette concurrence-là, c'est ce qui fait la force de cette équipe de France, même si humainement, le choix va être quand même très difficile.
Le champion du monde 2018, Sylvain André, pourrait ainsi se retrouver sur la touche et être privé de jeu à 31 ans.
Moi, ce sera ma première grosse course de retour. Je me suis blessé, j'ai fait un peu 6 mois compliqué là. Donc voilà, après, j'ai fait un premier podium de championnat du monde là-bas en 2017. Donc j'aimerais rajouter une médaille arc-en-ciel sur la tringle du rideau dans le salon, forcément, ça permettra d'avoir le ticket, je l'espère.
Surtout qu'il n'y aura aucun cadeau entre pilotes tricolores. Joris Daudet, auteur d'un bon début de saison, est déjà presque assuré de voir Paris, mais pas question d'être à Rock Hill pour faire de la figuration.
C'est frustrant, mais malheureusement, ça fait partie de la beauté des Jeux. C'est un cercle un peu exclusif, c'est qu'il y en aura qui vont passer à la trappe. Donc si je peux gagner, je ne me priverai pas, ça sera un bon tremplin pour les Jeux. Ouais.
Et une sélection cruciale pour une équipe masculine omniprésente sur les podiums internationaux, mais qui n'a étrangement encore jamais décroché de médaille olympique depuis l'apparition du BMX Race aux Jeux de Pékin en 2008.
Le BMX, une chance française aux JO de Paris. On va terminer avec cet appel à l'aide du propriétaire d'un vignoble du Bergeracois, c'est donc dans le Périgord, un domaine au bord du dépôt de bilan après l'orage de grêle il y a 15 jours. Le domaine Haut Montlon a perdu au moins 80% de ses vignes, plus de 400 000 € de pertes. Les propriétaires Laurence et Philippe Métiffet sont dans un gouffre financier. Alors ce couple de viticulteurs fait appel à la solidarité en lançant une cagnotte en ligne. Marie-Astrid Guégan.
Les vignes de Laurence et Philippe Métiffet sont comme en plein mois de février. Plus de feuilles, plus de raisins, tout a été arraché par la grêle. Laurence a même du mal à les regarder.
Alors moi, je vous cache pas que j'y vais pas trop. Pour le moment, je fuis un peu les vignes. Parce que à chaque fois, ça me ferait pleurer. Mais c'est vrai que de venir et de voir ça, ça fait pas envie.
Il n'y aura sans doute pas de récolte cette année, donc pas de revenus. Sauf que depuis qu'il a racheté le domaine familial il y a 7 ans, le couple n'a connu qu'une seule belle année, sans grêle, sans gel ou sans mildiou.
Quand on a racheté le domaine, on avait fait un prévisionnel en ayant le plein de récoltes tout le temps et on pouvait assumer largement nos charges. Mais le fait de diminuer un peu tous les ans, on perd de l'argent, on perd de la récolte. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus de réserves et plus de ressources. Argent et vin, enfin, les deux vont ensemble. Alors là, on a un peu de stock pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais l'année prochaine, pour le moment, elle n'est pas envisageable.
C'est pour ça que leurs enfants leur ont conseillé d'ouvrir une cagnotte en ligne.
Mais je ne vous cache pas que ouais, pour moi, c'est un peu, pas une honte, mais... je vis pas bien. C'est très dur de demander de l'aide, mais bon voilà, il faut en passer par là et on m'en dit pas, on veut pas passer pour des gens qui réclament de l'argent à tout va. C'est vraiment pour garder ce patrimoine, on veut sauver le domaine.
Le domaine doit fêter ses 100 ans l'an prochain. Philippe et Laurence espèrent qu'ils arriveront à le sauver d'ici là pour pouvoir faire la grande fête anniversaire qu'ils ont prévue depuis longtemps.
Alors si vous souhaitez soutenir ce domaine au Mont-Long détruit par la grêle, le lien de la cagnotte est sur le site internet de France Bleu Périgord. Avant la météo, retenez encore qu'à son tour, la Meurthe-et-Moselle est placée en vigilance rouge pour crue. La Meurthe-et-Moselle qui rejoint ainsi la Moselle, elle aussi en vigilance rouge pour les mêmes motifs. Le temps.
La météo avec le baume Hydra-Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Magali Rouchereau.
Bonsoir Eric.
Le ciel sera toujours instable pour la suite du week-end.
Oui, la soirée continue sous les averses dans le tiers sud du pays et on note même une reprise de l'activité orageuse dans le sud de l'Aquitaine et sur le sud-ouest de l'Occitanie en première partie de nuit. Demain, cette instabilité va se propager avec pluie et orage du sud-ouest jusqu'à l'Auvergne et l'après-midi, ondées et coups de tonnerre se retrouvent également dans le ciel de la Bretagne, au nord de l'Île-de-France et jusqu'au Hauts-de-France. Sur le reste du pays, les conditions sont plus calmes avec quelques grisailles matinales et un ciel qui se partage ensuite entre éclaircies et averses. Attention sur les massifs de l'Est, les pluies y seront plus marquées. Et sur le pourtour méditerranéen, vous aurez un temps sec entre soleil et nuages, excepté sur l'Est de la Corse où des pluies orageuses sont attendues.
Et les températures restent de saison.
Oui, avec cette goutte froide qui perdure sur le proche Atlantique, la situation n'évolue pas. Elles seront comprises entre 8 et 12 degrés le matin, entre 18 et 21 l'après-midi. Sur le flanc Est du pays, comptez 22 à 23 degrés, jusqu'à 22 à 24 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 23 à 28 degrés en Corse.
C'était Magali Rochereau.
France Inter présente
le podcast Europe, anatomie d'une utopie.
Thomas Negaroff.
Né du rêve d'une paix éternelle et d'une prospérité partagée, le projet européen est aujourd'hui attaqué de toutes parts. Retour sur une expérience politique unique au monde, une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Léonard Laborie.
Le podcast Europe, anatomie d'une utopie.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Pour trouver le bonheur, suivez-moi en Grèce.
Éric Emmanuel Schmitt.
Pour vous, j'ai traversé le temps jusqu'au siècle de Périclès. Ensemble, nous marcherons aux abords du Parthénon flambant neuf, deviserons avec Socrate en personne et partagerons peut-être même sur l'île de Lesbos le lit de la divine Sappho. Un voyage dans le passé? Non. Un voyage là où tout a commencé, aux sources de la lumière et du bonheur.
La lumière du bonheur, le roman événement d'Éric Emmanuel Schmitt, un livre Albin Michel. France Inter, partenaire des Nuits de Fourvière, festival international de la métropole de Lyon du 30 mai au 25 juillet. Théâtre, danse, cirque et concerts. Parmi 60 spectacles, découvrez The Pulse par les acrobates de Gravity and Other Miss, Angélique Kidjo accompagnée par l'Orchestre National de Lyon, les pianistes Katia et Marielle Labec, mais aussi PJ Harvey, R et Zao de Sagazan. Les Nuits de Fourvière, un événement France Inter.
Un grand merci d'avoir choisi France Inter. 19h17, l'apéro à l'heure de l'interview ou l'inverse. Voici Bistroscopie avec vous, Charline Vanhoenacker.
Merci Éric Delvaux pour ces informations. Je m'en vais rejoindre un presque collègue, il est caricaturiste. En Belgique, c'est le dessinateur du journal Le Soir, journal de référence. Pierre Kroll m'attend au bistrot.
Bonne émission.
Et voilà qu'il fait son entrée dans le bistrot. Pierre Kroll, bonjour.
Bonjour. Charline,
ça va?
Un petit peu hors.
Ah, je fais deux bises.
Oui, deux bises, bah oui, je vous... Voilà.
Mon invité a fait une bise, ça veut dire qu'il vient du royaume de Belgique. Il est caricaturiste.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait un caricaturiste le samedi soir? Il se repose un peu ou pas?
C'est très différent. Tous les samedis sont différents. Hein? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais ce soir?
Vous avez un... je vous interview déjà. Venez, venez.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Pierre Kroll, vous faites un métier dangereux, vous êtes caricaturiste, ou alors peut-être que c'est vous le danger public, ça on va le définir.
Bah, pourquoi?
Ça pourrait être dangereux la caricature, je ne sais pas.
Ah oui, ça oui.
Dans les deux sens.
C'est arrivé. Oui.
Parce que, comme en France c'est un peu tendu niveau liberté d'expression
non.
En ce moment, je vous le dis, je me suis dit tiens je vais inviter quelqu'un qui a du recul, je vais inviter un caricaturiste belge,
liégeois de son état. Vous êtes le plus connu de Belgique, Pierre Kroll. Vous dessinez tous les jours dans le journal Le Soir, qui est le journal de référence en Belgique. Vous êtes aussi un personnage médiatique. Et on vous voit parfois sur Arte dans 28 minutes. D'ailleurs, on pourra vous voir ce soir, là, à partir de 20h, dans l'émission d'Arte. Donc. On va commencer. Je vais reprendre vos deux derniers dessins publiés dans le journal Le Soir. Et je voudrais que vous en décriviez un. Depardieu en garde à vue.
Il est effectivement simple dessin, donc Depardieu est dans une cage, mais évidemment il déborde de partout, il y a un flic devant, et il dit « Alors Macron, la fierté de la France est en garde à vue ?» Puisque je ne crois pas me tromper, Macron a baptisé.
Oui, il avait dit que c'était la fierté Depardieu. De la France, ouais, bien sûr. Ouais. Il est facile ou pas facile à dessiner, Emmanuel Macron ?
Oh, c'est pas un cadeau, non. Ça, tous les dessinateurs connaissent les bons clients. D'ailleurs, il faudrait pas demander aux dessinateurs de choisir les présidents, etc. Parce que moi, j'aurais gardé Sarkozy, je voudrais le retour de Trump, etc. Dans la réalité, pas du tout. Hein. La caricature politique, c'est aussi de la connivence. C'est-à-dire que les lecteurs suivent un dessinateur et savent bien sa manière de dessiner un tel ou un tel ou un tel. Voilà. Mais Macron est un petit peu trop beau garçon, quoi.
Et les membres du gouvernement français en ce moment, il y a moyen de les dessiner ou...
Ben, je ne l'ai fait quasiment jamais. Moi, il y a un moment que je suis plus à de très près.
Ben, nous non plus, je vous dirais.
Ah bon, c'est ça.
Ben, on ne sait pas très très bien qui est qui. Mais aussi, il y en a deux, trois. Il y a Darmanin, Dupond-Moretti.
Dupond-Moretti, je l'ai dessiné. Ça, c'était facile, ces ennuis judiciaires. Il y a à la fois l'inculpé, l'avocat, le ministre, tout. C'était très amusant à faire.
C'est vous qui le dites, moi, je... pas de polémique. Est-ce que, vu de Belgique, on ne dirait pas qu'en ce moment, la France, c'est un pays de fous?
Oh, je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui.
Ah oui, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Mais le voisin, dans une rue, il sait des choses sur son voisin, quoi. Il le voit tondre son gazon, couper sa haie, s'engueuler avec sa famille, etc. Donc nous, les petits Belges, la francophone en tout cas, on vous connaît. Bon, je parle à une Belge, mais on connaît les Français. On les regarde depuis longtemps. Et on trouve que c'est quand même une famille assez compliquée. Je pense que... à quoi tu veux peut-être faire allusion, c'est cette espèce de polarisation de plus en plus dingue à tout propos. Et moi, quand je dis que ça a toujours été le cas, je pense que la France a toujours été plus que d'autres cultures, quoi. C'est un pays violent. On dit la France des droits de l'homme, je veux bien. En même temps qu'on écrivait les droits de l'homme, on coupait une tête toutes les heures. Tout ça, c'est pas fait très gentiment. Et maintenant, effectivement, vu par un Belge, c'est de la folie la manière dont on sort n'importe quoi. Et puis, d'ailleurs, la preuve, plutôt que d'être trop long sur ce sujet, parce que les auditeurs français le connaissent très très bien, mais j'ai été surpris, après le 7 octobre, par exemple, après 5 jours, il n'est pas possible à un Français de ne pas avoir choisi son camp. Celui qui n'a rien dit, parce qu'il ne sait peut-être même pas où c'est Israël, ou qu'il n'a pas écouté ce qui s'était passé, on va lui dire « Eh quoi, toi, tu es avec qui, espèce de connard, je suis sûr que tu es avec les autres, sale con, etc. » Et on se tape dessus. Donc c'est vraiment impressionnant. Moi, je ne suis pas dans un pays modèle à tout point de vue. Le conflit linguistique, par exemple, belge, pourrit les relations en Belgique depuis très longtemps. Mais il n'y a pas de tant de bagarres. Je dis souvent, en observant la politique, en France, quand il vous faut faire une réforme, il faut d'abord brûler une quarantaine ou une centaine de bagnoles dans les rues, se taper dessus pendant 3, 4, 5 jours, amener les CRS, tout le bazar, et que ça dure très longtemps. Et puis alors après, on va peut-être se mettre autour de la table. Il y a d'ailleurs des politiques qui ont cette phrase tout le temps. Il serait temps de se mettre autour de la table pour discuter. En Belgique, on se met autour de la table d'abord pour dire on va peut-être éventuellement faire une réforme de quelque chose. Le problème, c'est que ça prend 4, 5, 6 ans. Il y a une réforme des retraites en Belgique, il y a 10 ans qu'on est autour de la table. Ça avance pas. Par contre, on se tapera peut-être dessus après si on y arrive pas.
J'ai une image. Là, si j'arrivais à dessiner, je ferais la table des négociations en France. Alors, il y en a un qui a un œil au beurre noir, où il lui manque un œil parce qu'il y a eu des manifs et des LBD. Il y en a un qui a le bras dans le plâtre. Et autour de la table, ils sont déjà amochés, en fait.
C'est un très bon dessin, Charlie.
Ah, merci.
J'ai déjà fait ça.
Je me mets au dessin. Ah, vous l'avez déjà fait ?
Oui, ce genre. Les gens très abîmés par de longues...
Mais vous dessinez tellement, Pierre, que n'avez-vous pas dessiné encore ?
Donc, la France, c'est violent. Même, par exemple, dans mon métier de dessinateur, j'ai aussi des tas de gens sur Facebook qui commentent mes dessins un peu dans tous les sens, mais c'est pas avec la même violence.
La virulence.
Je suis un peu moins menacé de mort que le moindre de mes confrères français, un peu moins souvent.
Et en Belgique, il y a pas de polarisation ? La polarisation, c'est quand on organise de la société, le système politique entre deux pôles très 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 marqués et qu'il faut choisir son camp.
Oui, je dirais aussi, la polarisation, c'est un mot poli pour dire la haine aussi, de l'autre. C'est-à-dire qu'on a... On discute plus. Quand on dit c'est polarisé, ça veut dire c'est fait, quoi. Ouais. C'est déjà complètement opposé. Alors, ce que je vais expliquer en deux mots, parce que c'est très imagé. En France, il y avait des rois. Il y avait un roi. Et puis un jour, on lui a coupé la tête. tout le monde sait ça. Du coup, le trône, il est vide, il n'y a personne dessus. C'est la guerre permanente. Dès le lendemain des élections présidentielles, on fait campagne pour les suivantes. Hein. Tout le monde veut occuper ce trône et être au-dessus parce qu'il y a beaucoup de pouvoir, c'est très beau, c'est, ouais, c'est magnifique. Vous allez à Versailles, vous faites des soirées à Versailles hein, avec Mick Jagger et tout ça, le président.
Bon. Et Gérard Larcher.
Et en Belgique, on a mis un roi exprès et on lui a coupé les couilles. Excusez-moi, c'est vraiment ça. Donc il est là sur le trône, il l'occupe, mais il ne peut rien faire. Quand il dit rien, il doit le faire en irlandais et en français et en allemand. Il est contrôlé de partout, il a des petits pouvoirs de rien du tout ou pas du tout.
Et ça, ça apaise.
Mais oui, parce que personne ne peut revendiquer la place sur le trône. Elle est dévolue. Après, elle sera pour son fils, enfin sa fille en l'occurrence.
Il faut rétablir la monarchie en France.
Elle a quelques avantages. Je ne suis pas un monarchiste de base, mais elle a des avantages. Dans un pays compliqué comme le mien,
c'est génial. C'est très de droite ce que vous venez de dire. Ça m'arrange. Comme ça, on équilibre, pluralisme, tout ça. Hop, vive la monarchie française. Allez, hop.
Bon,
je vais être monarchiste souverainiste maintenant.
Les gens les plus à gauche en Belgique, ils vous disent « Moi, je suis républicain, je suis anti-monarchique, sauf en Belgique. »
Ah.
Je vous jure.
Mais alors, est-ce que les deux systèmes politiques belge et français étant tellement différents, est-ce que c'est le même métier, caricaturiste en France et caricaturiste en Belgique ?
De nouveau, cette violence que vous avez en France à vous taper dessus tout le temps fait que des dessins, ça doit être tout le temps. Voilà. La phrase de Cavanin, un dessin, c'est un point dans la gueule, moi, je ne la partage pas tout à fait. Enfin, je vois très bien ce qu'il veut dire, mais quand je fais un dessin...
Il faut apaiser ?
Non, certainement pas. Mais je préfère que ça agace le politique que je vise par la justesse un peu décalée du propos, plutôt que de le dessiner à poil en train de se faire sodomiser par son adversaire. Ça, vous faites ça en France, et à mon avis, ça leur fait rien. Hein. Enfin, dans le dessin, je veux dire. Mais non, mais je veux dire, c'est,
oui, dans le dessin,
ils sont habitués, quoi. Ils sont habitués à ce genre, à cette virulence-là. Chez nous, on paraît moins méchant, comme ça, violent dans la caricature.
C'est cette phrase qu'il vous arrive de prononcer. En France, la vulgarité est un exercice de style. En Belgique, cela déclasse le propos, mais on n'est pas moins impertinent.
Oui, enfin, maintenant, ça dépend d'un caricaturiste à l'autre. Il y en a des très impertinents, il y en a des pas du tout. Mais les fois où j'ai déjà fâché un homme politique ou qui me l'a fait savoir, c'est parce que j'avais tapé juste dans le propos. Mon dessin montrait ce qu'en fait il n'avait pas dit tout à fait comme
c'est
ça.
C'est la justesse qui fait mal. Intéressant. Ouais. Sur cette belle phrase, on va peut-être commander un truc à boire. On est samedi soir quand même. Qu'est-ce qu'on boirait ?
Je vais boire un truc très con. Je vais boire un panaché.
Ah ouais ?
Ouais. Non, le panaché, c'est un truc très libertaire, très osé. Parce qu'à 10 ans, tu peux pas. Parce qu'il y a de la bière dans la limonade.
Ouais.
À 20 ans, tu peux pas parce que t'as l'air con avec tes copains parce qu'il y a de la limonade dans ta bière. Bon, à mon âge, où j'ai déjà bu tout ce qui s'avale, je peux me permettre maintenant de panacher.
Ok.
C'est quand même assez nul comme boisson, c'est vrai.
Oui, ben ça, j'avais prévenu Pierre, le panaché. Ça, c'était une erreur. Normalement, l'humour et la caricature sont censés désamorcer les tensions, permettre de relativiser les événements ou de mettre la distance avec les drames. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est parfois l'inverse qui se produit ?
Ah, c'est une très bonne question. Pas parce que j'ai prévu une très bonne réponse, justement, parce que c'est un vaste débat. Je me demande dans le détail et dans sa globalité, enfin, qu'est-ce que ça dit d'un gros changement de société, de lecture, d'une espèce de démocratisation aussi, de la vie, de l'accès à tout. Les dessins, quand j'ai commencé à dessiner, bon, Charlie Hebdo existait, quand j'avais 15 ans, j'allais l'acheter un peu en cachette de mes parents, et c'était dans le fond des librairies avec les journaux porno. Bon, là, je parle pour un journal vraiment satirique. Maintenant, Charlie Hebdo, il est partout, tout le monde a un avis dessus, et d'ailleurs, d'autres journaux, je trouve, abuse dans l'annonce que le prochain Charlie Hebdo, parce qu'ils ont déjà vu la couverture, va encore poser scandale. Et hop, et comme ça, on a lancé la bagarre, etc. Bon, ça, c'est général. De façon plus précise, je comprends pas toujours qu'il y a des gens qui ont aucun humour, il y a toujours eu. Qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui ont pas le même que vous, oui, qui savent pas de quel... Il y a toujours eu ça. Mais maintenant, quand des gens comprennent qu'on se moque, on va dire, de quelque chose, ça veut dire que forcément, vous êtes contre cette chose. Vous voyez, je me moque d'un politique, mais c'est qu'évidemment, je suis du parti en face. Mais
alors,
non, peut-être pas.
On peut
peut-être
formuler
pas.
Autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de neuf, c'est que les dessins sont instrumentalisés ?
Mais voilà. Je ne suis pas journaliste, là, moi.
J'ai mis la réponse à la question, vous voulez dire ?
Oui. Non, mais c'est sûr qu'ils sont instrumentalisés. Déjà, on peut appliquer cette vieille histoire de... quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile vous regarde le doigt, quoi.
Ouais.
Mais c'est très souvent ça. Hein. Moi, je peux commencer à dessiner un Congolais, je vais le faire plutôt noir parce qu'il est plus foncé que moi. Et des gens vont dire c'est un dessin raciste. Mais attendez, il n'est pas encore mis une bulle, j'ai encore rien fait, j'ai encore rien dit, on ne sait pas de quoi ça parle. Bon, c'est quelqu'un qui l'est profondément, lui, s'il voit ça dans un de mes dessins. Mais ce côté, parfois.
Ça ne se faisait pas avant d'instrumentaliser les dessins.
Il vous arrive quand même de vous moquer un peu de vous-même, parfois.
J'essaye,
un jour
quand même.
Où... je sais pas, vous avez une sale tête, vous vous dites à vous-même devant la glace, putain, j'ai une sale tête.
Ça n'arrive jamais, Pierre. Alors, pardon.
Je trouve que plus une question est grave, plus il faut l'aborder de manière détendue. Ça a l'air stupide, mais c'est pas dire détendez-vous comme aller faire du sudoku ou un jogging, c'est pas ça que je veux dire. J'ai vu dans Cartooning for Peace, l'association créée par Plantu, là où les caricaturistes se parlent. Mm-hmm. C'est pas un truc de une association professionnelle où on s'échange des bons plans, des contrats et tout, c'est pas ça.
C'est des caricaturistes du monde entier.
Voilà, ouais. Et on vient en aide aux caricaturistes qui ont des gros sérieux problèmes dans leur pays. Et puis d'autres, on apprend à mieux se connaître. J'ai vu de mes yeux des caricaturistes israéliens parler avec un caricaturiste iranien pendant une fois toute une nuit. Mais ça se passe bien. Mais croyez pas qu'après, ils sont d'accord l'un avec l'autre. Aucun n'a changé d'avis. Mais ils comprennent la vie de l'autre, ils l'ont compris. C'est ça que j'appelle se détendre. C'est-à-dire, bon, on va divorcer. On va pas commencer à se taper dessus. En général, c'est fait. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on divorce. Ouais. Et à ce moment-là, il faut se détendre. Il faut essayer de le prendre de manière détendue.
Mm-hmm. Il me semble. Voilà. Un peu de musique, Pierre Kroll. Djoubaka, notre programmateur musical, a choisi pour vous Johnny Cash, Well Alright. Et si tout pouvait être Well Alright, oh là là, bon, on n'aurait plus de boulot.
I met her at the laundromat, she was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer and I set it on soft and light. She said, be gentle with my silk and lace. And I said, well, all right. Mm-hmm. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right, well, all right. The world's half full of women and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, all right.
Bistroscopie, Charline Vanhoenacker sur France Inter.
Nous voilà attablés avec le caricaturiste belge Pierre Kroll, qui dessine dans Le Soir tous les jours et qu'on pourra voir tout à l'heure à 20h sur Arte, car vous dessinez dans l'émission 28 minutes.
Un samedi sur quatre.
Vous êtes le pionnier de la caricature sur les enjeux climatiques, Pierre Kroll, parce que vos premiers dessins sur le climat, ils datent de 1980. C'est un remède à l'éco-anxiété, ça quand même déjà? Le dessin?
C'est aussi parce que j'ai fait des études dans ce domaine-là. J'ai étudié l'architecture et puis après j'ai fait une licence en sciences de l'environnement. Je ne sais pas si j'avais le nez fin, mais il me semblait que l'écologie, on allait beaucoup en parler dans les années futures. Voilà, c'était dans les années 80 et comme tout dessinateur, j'ai beaucoup dessiné sur les bancs d'école. Donc je dessinais des dessins sur l'écologie déjà dans ces années-là. Quoi.
Oui. D'ailleurs, en 1981, quand la France vote Mitterrand, il y a une première en Europe. C'est en Belgique, c'est des députés écolos qui entrent au Parlement belge.
C'est amusant de comparer les époques, à la fois parce que des choses ont changé et paraissent des modes. Vous savez, on parlait beaucoup des pluies acides ou par exemple des marées noires, il y en a moins maintenant. En revanche, d'autres n'ont pas changé, on en parlait déjà, et elles ont empiré. Je pense par exemple à la production du plastique. La caricature a quelque chose d'utile à l'histoire comme ça. C'est très immodeste, mais c'est mon rédacteur en chef au journal Le Soir qui me dit un jour, ton métier c'est de documenter le présent. Et c'est ça, on laisse des documents sur le présent. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont synthétiques et tout. Et puis après, peuvent être comparés et réfléchis si on veut après. Par exemple, quand je parle des marées noires, quelque chose qui a fondamentalement changé, c'est que les marées noires, c'était des accidents. C'est-à-dire, on se dit, normalement, quand tout va bien, vous pouvez transporter autant de pétrole que vous voulez à l'autre bout de la planète. C'est juste qu'il ne faut pas que le bateau casse, quoi. C'est ça, une marée noire. Maintenant, les graves problèmes de pollution, ceux du réchauffement climatique, ne sont pas accidentels. Ils sont endémiques, c'est tout ce qu'on fait en permanence tout le temps qui produit de la pollution. Voilà, c'est des gros changements. Et en trois dessins, on a compris ça, si on regarde des dessins qui ont 40 ans et des dessins de maintenant. Waouh, ça c'était le passage France Culture, ça.
Mais, sûr. Je vais peut-être postuler d'ailleurs, grâce à vous. Études d'architecture, Pierre Kroll, pour finir par dessiner des petits Mickey dans des cases, franchement.
Ouais. J'ai coutume de dire que j'ai fait, comme vous dites en France, bac plus 7, pour faire un métier au jour le jour. Hein. J'ai quand même pas mal ma vie avec ça, mais pour lequel on m'a jamais demandé mon diplôme d'école primaire.
Et Pierre Kroll, afin d'éviter le service militaire, vous faites 22 mois d'objection de conscience dans un théâtre de marionnettes.
Ouais.
Là, avouez que le lien entre l'armée et les marionnettes, c'est votre premier acte de caricaturiste, non ?
Oui, j'ai coutume de dire, je me demande si je n'ai pas écrit dans la lettre de motivation, plutôt que faire militaire, je préfère faire des vraies marionnettes. Quoi. Voilà, un truc comme ça.
C'est valable pour le politique aussi. Le
théâtre de marionnettes revit, parce que c'est celui que Bouly Lanners a relancé à Liège, un tout petit théâtre avec ses très vieilles marionnettes. C'est des marionnettes à tringles, vous savez, les marionnettes, c'est des traditions partout. Il y en a en France, à Lyon, c'est Guignol et tout. Chez nous, à Liège, c'est des grandes marionnettes en bois qui font un mètre de haut avec des grandes tringles qui sont très lourdes. Et alors, c'est dans des tout petits castelets, comme ça, en bois. Et j'ai passé mon service à faire des décors, entre autres, sur des draps de lit peints. Et je les ai vus revivre maintenant que Bouly s'en resserre avec des marionnettes devant.
Pierre Kroll, vous êtes né à Gouaka, au Congo belge, devenu Zaïr, devenu République démocratique du Congo. L'occasion de vous demander, en Belgique, il y a eu ce débat sur déboulonner les statues, par exemple, du roi colonisateur Léopold II. Il s'est passé comment, ce débat sur déboulonner les statues ? Parce qu'en France, il y a une passionnariat là-dessus aussi. Donc,
Bah oui, forcément. Voilà. Encore peut-être un exemple. On s'est moins tapé dessus, je me souviens pas, de grosses bagarres dans les rues autour de ces statues. Et j'imagine qu'en France, tout de suite, il a fallu qu'on...
Et ça va au-delà des statues, puisqu'il y a à Bruxelles un tunnel qui s'appelait le tunnel Léopold.
Oui. Laissez-moi le dire. Il s'appelle maintenant le tunnel Annie Cordy.
Et ouais.
Quand même magnifique. Hein.
Donc on a grand remplacé le roi colonisateur Léopold II. Donc on a fait un examen de conscience national et on a remplacé par Annie Cordy, quoi.
Donc je ne sais pas comment dire que je trouve ça un peu stupide, puisque justement l'esprit français va donc dire « Ah oui, mais donc il est d'accord avec Léopold. Il préfère Léopold II à Annie Cordy. » Non, je préfère Annie Cordy quand elle chante.
Elle a fait moins de dégâts.
Voilà. C'est pas ça. Je peux être tout à fait choqué de ce qu'a fait Léopold II et dire qu'il faut en changer l'histoire et tout. Je trouve ce débat effectivement assez stupide. J'ai dit à des Congolais, mais quand vous aurez enlevé les statues de Léopold II, sur qui vous allez écrire ? Où est-ce que vous allez écrire que c'était un gros connard ? Vous allez m'envoyer un tweet un jour comme ça à Noël. Je vais pas comprendre pourquoi. Moi, je vais me demander quoi. Donc, gardez la statue et allez écrire des trucs dessus. Et puis, je me cite moi-même. Je me souviens d'un de mes dessins parce que parfois le dessin, justement, quand je parle de détendre les choses, c'est prendre un côté inattendu de la question, hein, la prendre par un autre bord. Moi, j'ai dessiné cela pour mon journal, hein, le soir, qu'il a publié, un dessin où, effectivement, il y a pas mal de statues de Léopold II où il est sur un cheval. Et bien, ils avaient enlevé le Léopold II parce que les activistes, là, en dessous, disaient « On va laisser le cheval, il n'a rien fait. » Voilà.
J'aime bien l'esprit. Touchons un mot du cordon sanitaire médiatique en Belgique francophone. Le cordon sanitaire médiatique, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, puisque en France, il a sauté depuis très très longtemps.
Bon, c'est la prolongation d'un cordon sanitaire politique vrai, à savoir que les partis politiques en Belgique ont signé un accord qui vaut comme tous les accords jusqu'au jour où on n'en voudra plus. Enfin, il a entre-temps signé, je ne sais plus exactement sa date, qu'on a appelé le cordon sanitaire, c'est-à-dire que les partis démocratiques nombreux, la droite comme la gauche, etc., s'engageaient à ne jamais faire d'alliance avec l'extrême droite. Alors, ce qu'on a appelé le cordon sanitaire médiatique, c'est que du côté francophone, en tout cas, les médias principaux, la RTBF, l'équivalent de France Inter, de Radio France, quoi, en Belgique, s'est engagé à ne jamais recevoir sur un plateau de télé un politique d'extrême droite pour ne pas le laisser sortir ce qu'il a à dire, quoi. C'est parfois discutable, c'est de plus en plus discuté. D'ailleurs, certains disent que c'est pas extrêmement démocratique, enfin, que c'est une atteinte à la liberté d'expression, parce qu'après, on a vu comment ça pourrait ou devrait s'appliquer à d'autres choses, des climato-sceptiques, les gens qui ont un discours très populiste, dont on sait qu'il va avoir un effet auprès de beaucoup de gens, alors qu'il est contestable en tout. Je ne sais pas juger vraiment du bien fondé de ça, parce que je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle on a moins d'extrême droite Enfin, on n'en a quasiment pas en Belgique francophone, en tout cas. On n'a pas de parti structuré important.
Mmh. C'est-à-dire que les responsables des chaînes de télé, par exemple, ou de radio, comme ils sont responsables éditoriaux, ils ne veulent pas donner la parole en direct pour éviter tout dérapage, parce que c'est eux, ensuite, qui seront responsables du dérapage, en tant que responsable éditorial. Voilà, c'est ça la raison.
C'est très bien dit. C'est très bien dit.
Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui?
Et c'est même plus qu'en direct. Hein, c'est, on ne passera pas d'interview...
C'est encore maintenu aujourd'hui en Belgique francophone, ça?
Oui, mais c'est assez facile, parce qu'il n'y a pas de leader d'extrême droite en Belgique francophone. En Flandre, ça a sauté, parce que c'est difficile de ne pas faire parler le président du Vlaams Belang, qui est un parti qui fait plus de 30%.
Oui, mais donc la conclusion, ça veut dire que c'est parce qu'il y a ce cordon sanitaire médiatique que l'extrême droite ne prospère pas.
Ben, c'est ça que je peux
et
pas...
Et quand il est rompu, elle prospère, et donc les médias sont obligés d'inviter.
C'est sans doute un peu trop simple, mais parce qu'il y a une tradition...
Vous voulez dire qu'on caricature?
Voilà. Non, j'ai dit que caricaturer, c'était pas toujours faire plus simple. C'était oui, parfois faire une autre complexité ailleurs. Mm-hmm. Non, mais si on veut passionner les auditeurs français à la politique belge, parce que j'ai souvent dit en riant, si vous aimez jouer aux dames, vous aimerez jouer aux échecs. C'est plus compliqué. Hein. Alors, si vous aimez la politique, vous aimerez la politique belge, parce qu'elle est très compliquée.
Pierre Kroll, quand une blague ou un dessin blesse, est-ce que c'est pour autant une mauvaise blague?
Non. Ben, il faudrait voir un peu au cas par cas. C'est-à-dire que s'il a été fait pour blesser, ben, il est réussi.
C'est-à-dire que c'est dans l'intention, par exemple, déjà qu'on peut identifier les choses.
Déjà, je pense que dans un dessin, il faut toujours chercher l'intention. S'il faut la chercher beaucoup et qu'on la trouve jamais, là, le dessinateur est franchement mauvais. J'ai un exemple tout simple pour ça. Quand je dessine, j'expliquais depuis longtemps, je dis que j'ai fait l'architecture. Si je dessine quelqu'un dans une chaise roulante qui ne sait pas atteindre le bouton de l'ascenseur, là, qui doit s'étirer, vous croyez que je me moque du handicapé? Pauvre con, il n'avait pas de bras, pas de chocolat, il ne sait même pas se lever. Ben non, je me moque de l'architecte qui a mis le bouton trop haut. On revient à ce qu'on disait au début, il y a des gens mal intentionnés qui vont rire du dessin en croyant que je me moque du handicapé. Pour ça, c'est leur problème. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Je pense que l'intention est souvent...
Mais donc, parfois, il faut expliquer son intention, alors?
Il faudrait qu'elle...
Si c'est mal compris, est-ce que expliquer l'intention, c'est nécessaire ou ça aide? Ou il ne faut surtout pas parce que c'est reculé?
Éventuellement, parfois, si on se sent mal soi-même en se disant là, on m'a pas compris et j'ai fait du mal, bah, c'est pas pourquoi pas s'excuser. Non, moi j'ai déjà aussi refusé de m'excuser parce que soit j'assumais ce que j'ai fait, soit c'est des gens qui l'ont compris à l'envers. Et je vais pas aller chaque fois. Vous savez, on parle toujours de l'effet des réseaux sociaux, etc. Il y a 120 000 personnes qui me suivent tous les jours sur Facebook, par exemple. Il y en a beaucoup qui m'écrivent j'ai pas compris votre dessin aujourd'hui. J'ai même pas le temps de leur répondre gentiment, que j'ai pas le temps de leur répondre à tous. Si personne comprend, bah, je vais changer de métier. Mais tant pis pour ceux qui n'ont pas compris. Et tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Et dans une certaine mesure, je reviens au début de la question, tant pis pour ceux qui ont été blessés. Parce que sinon, à la fin, on peut plus rien faire du tout. Mais ça peut être normal d'être blessé. Quand tu as quand même une grande expérience du dessin, du métier, c'est quand même le seul qui est dans le dictionnaire Larousse depuis 40 ans, dans les dessinateurs de presse vivants. Et il dit très bien, mais je trouve tout à fait normal qu'on soit choqué par un dessin, qu'on déteste, qu'on dise que ce dessinateur-là, il ne doit plus le faire, qu'il ne le fera plus, etc. Maintenant, le dessinateur doit continuer. Est-ce qu'on peut rire de tout? On ne va pas le faire.
Mais, on ne peut plus de cette question.
Mais on ne peut pas rire de tout sans en supporter des conséquences un peu. Mm-hmm. C'est vachement confus comme réponse là, sur ce truc-là. Enfin, je ne me suis jamais excusé pour des dessins. Et parfois, j'ai pensé que ce n'était pas mon meilleur. Hein, tant pis s'il a blessé, tant pis.
Vous avez aussi officié sur la RTBF en télévision. Pendant des débats politiques, vous dessinez en direct. La RTBF, c'est le service public. Est-ce que vous estimez que, sur le service public, on dessine autrement ou on rit autrement, qu'il y a plus de responsabilités qu'ailleurs?
Je ne sais pas répondre à la question ou je ne l'ai pas comprise.
Vous travaillez pour le journal Le Soir, Pierre Kroll, pour différents journaux, et vous avez travaillé pour la RTBF. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a la RTBF est service public avec l'argent des gens, les impôts, et Le Soir, c'est les lecteurs qui et la pub qui, voilà. Donc, est-ce qu'on a une responsabilité plus grande dans l'un ou dans l'autre? On dessine pareil?
Oui, mais dans les deux cas, Le Soir est un tel journal de référence et qui se veut un quality paper, comme on dit, pour parler bien français, etc., qu'il prend des... des responsabilités un peu comme s'il avait une mission de service public. C'est pas un journal engagé d'opinion qui va défendre que telle cause, etc., parce que c'est la sienne, ce qui serait très bien aussi, ça existe aussi. La télévision RTBF est un service public. En face, il y a RTL qui fait parfois plus d'audience dans ses journaux, etc. RTL fait paradoxalement moins d'émissions d'humour politique que la RTBF. Donc, je ne sais pas si c'est pareil en France avec France Inter où l'humour est quand même très présent, avec une fille qui fait beaucoup d'émissions qui sont assez bien là-dedans et tout. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu à la RTBF un directeur de la première chaîne, donc comme France Inter, qui disait « L'humour a-t-il sa place sur cette chaîne ?» Voilà, parce que pour faire sérieux, il ne faut pas qu'il y ait de l'humour. Alors là, je cite souvent « Regardez un peu ce que fait Charline Vanhoenacker et ses copains sur France Inter. » C'est quand même une chaîne pas mal, hein, France Inter. Voilà. Donc, non, je pense que le service public est parfois le meilleur endroit, l'endroit où l'on permet le plus ce genre de choses, parce qu'on a moins peur des réactions de tout le monde, je crois. Voilà, c'est un peu maladroit comme réponse. Mais...
Conclusion, en Belgique aussi, c'est le service public qui offre le plus de temps d'antenne à l'humour.
Ouais, je fais quand même pas non plus...
Vous êtes fait virer, vous, de la RTBF?
Oui, c'est ça, voilà. Ah, donc je comptais quand même pas sur moi pour dire que c'est vraiment formidable.
Et pourquoi?
Pendant 35 ans, j'ai fait des dessins sur tous les débats chaque semaine, et les 10-15 dernières années sur les débats essentiellement politiques, donc même pas les questions de société, vraiment des débats politiques, et en direct, en pur direct. Et je trouve que c'était tout à l'honneur de la RTBF d'avoir un dessinateur qui peut dessiner ce qu'il veut, parce que le gars qui va éventuellement pas passer mon dessin, c'est parce qu'il aura remarqué, s'il est attentif, une grosse faute d'orthographe, mais je dessinais pas des couilles et des trucs comme ça tout le temps. Donc, le jugement politique, il arrivait après. Pourquoi cet imbécile a fait ça? On a des ennuis, je sais pas quoi. Et tout. Donc, il y avait une grande, grande liberté totale. Et puis, ça s'est fait de façon un peu hypocrite. Le coronavirus s'est passé par là. Les débats ont été suspendus un moment. Quand ils ont repris, on m'a dit, trouve un peu une autre idée pour intervenir dans une émission où, à la place des dessins qui l'interrompaient, qui passaient derrière ce que disaient les politiques, on va mettre des réactions de citoyens. Alors, ça, c'est le grand côté...
Mais donc c'est une reculade de la liberté d'expression. On offre à la liberté à un caricaturiste de dessiner pendant un débat politique en direct, et puis on lui retire. Donc il y a une reculade.
Oui, mais ils vous diront que pendant ce temps-là, le temps d'antenne que je perds, on l'a donné à monsieur et madame tout le monde qui peut, eux, s'exprimer, et que ça, c'est de la liberté d'expression. Donc je peux pas rentrer dans ce débat. Mmh. Je pense que mon absence ne les dérange pas. Voilà.
Eh bien, cette phrase, voilà. Je vais la noter.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Au mois de novembre, dans Bistroscopie, cette émission, je recevais le dessinateur Luz.
Oui.
Il a dit trois choses que je voudrais...
Ah bah j'en ai déjà dit beaucoup plus, hein. Il a dit trois choses.
Non, j'ai retenu trois principales choses que je vais vous soumettre. Je voudrais vous faire réagir. Il a dit... Il faut considérer que l'humour a perdu, donc il n'a plus rien à perdre, donc il faut aller encore plus loin. J'ai pas dit que c'était facile parce qu'on est samedi soir et qu'on boit des coups, Pierre Kroll. Hein.
Je reprendrai bien un panache. Mais je suis assez d'accord, peut-être pas avec la fin. Il faut aller plus loin, je sais pas exactement ce qu'il entend par là.
Donc l'humour a perdu, vous êtes d'accord?
En grande partie, oui. Oui, en grande partie, oui.
Au moment où on entend des éclats de rire dans le bistrot.
Mais oui, jamais totalement, parce que l'humour est indestructible. C'est sa force toujours. C'est comme quand on veut lui mettre des limites. On va dire, attends, on peut être drôle jusque-là. Mais qu'est-ce qui commence à être drôle? C'est juste d'aller un tout petit peu plus loin. Évidemment, oui. Sinon c'est pas marrant, parce que c'est attendu. L'humour a toujours une part des attentes. Donc il n'est jamais... Bon, mort... Mais j'étais néanmoins d'accord, parce que j'ai aussi un propos un peu dur sur les suites de Charlie Hebdo, justement, des attentats à Charlie Hebdo. Ouais. Ben, moi, je dis, mais il y en a peu qui l'affirment comme ça, mais ils ont gagné. Les frères Kouachi, ils ont gagné, complètement. Si c'est un match, ça, ben, c'est les vainqueurs. Ils sont morts, d'accord, mais... Parce qu'il n'y a même plus un livre d'histoire, quand on commémore les anniversaires 10 ans, etc. Quand on fait un article pour expliquer ce qui s'est passé, on n'ose plus remontrer les dessins, déjà, parce que c'est des republiés. Donc on fera des livres d'histoire, où on dira, à propos de caricatures, il y a eu des morts. Il y a 100 ans, et on ne les montrera plus. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui oserait faire ça. Alors, c'est facile pour moi de le dire, je ne dessinais pas le prophète avant. J'ai souvent expliqué pourquoi, hein. C'était pas par peur, c'est parce qu'il a jamais fait une négociation gouvernementale à la région Wallonne, il a jamais... Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute, moi, du prophète Mohamed? Il était jamais dans mes dessins.
Vous venez de blasphémer.
Non, j'ai beaucoup, énormément de respect pour ce monsieur.
c'est qui encore non
Il faut que l'actualité justifie aussi.
Oui, oui, voilà.
Si
voilà.
ça vient comme ça, en plein milieu du... comme ça, ex nihilo, ça veut dire que vous avez envie d'en découdre, alors.
Qu'est-ce qu'il veut dire par l'humour et il faut en faire plus. La société, par moment, paraît une caricature tout le temps, hein. À un point absolument incroyable, des choses que j'oserais pas, que j'aurais pris pour des caricatures.
Ouais. Alors dans ces cas-là, est-ce que vous n'êtes pas débordé?
Oui, c'est ça, justement.
Vous êtes dépassé.
Lui veut sans doute dire il y a encore moins de remettre encore une couche. Ouais. Mais il y a un moment où ça va plus.
Ou alors est-ce que c'est le contraire, quand la réalité est extrêmement caricaturale, la caricature c'est grossir le trait. Si la réalité est caricaturale, est-ce qu'il ne faut pas affiner le trait?
Oui, moi je dirais plutôt ça.
Parce que le décalage, il est là-dedans.
Moi, je dirais plutôt ça. Par exemple, il m'arrive, sans en abuser, de dessiner des petits martiens, des extraterrestres, comme ça, qui ont un commentaire sur quelque chose qui se passe. D'abord, je suis à l'aise parce que c'est les seuls qu'on me reproche jamais de dessiner comme ça. Vu que personne n'en a vu et qu'eux s'expriment assez peu, en général, on me dit pas « Putain, ils sont pas verts, ils sont pas comme ça, ils sont plus grands, ils sont plus petits. » Bon, c'est déjà bien. Bon, mais c'est justement cette question-là, c'est que c'est le décalage. Alors, c'est qui parle? C'est pas un des intervenants de l'histoire. C'est un regard extérieur. Mmh. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra rire de ce que l'on vit.
Luce disait aussi, si l'humour n'est plus là, il va y avoir un vide. Par quoi il va être comblé, ce vide?
Et il pose que des questions, il dit pas, il n'a pas des réponses, lui.
Je sais. Non, on avait promis de se revoir, ça va se faire.
C'est très chouette, oui, c'est vrai, je vois très très bien. C'est un propos intelligent, parce que je vois les pistes que ça veut dire. Vous savez, moi j'ai eu par exemple un de mes dessins vraiment censuré qui a posé un problème, c'est un dessin sur les Gilles de Binge. Vous voyez ce que c'est, les Gilles de Binge? Surtout qui venait
de la Louvière, personnage de carnaval.
Personnage de carnaval avec des grandes plumes sur la tête, etc. Je comprends très bien que dans le folklore, il faille être assez sévère sur le respect d'un certain nombre de règles, sinon ça disparaît tout de suite. En quelques années, ils s'habilleront n'importe comment, ce ne seront plus des Gilles de Binge. Donc il y a une sorte de sacré, si on veut, là-dessus.
Oui,
ouais, d'accord, mais c'est quand même, le total, c'est quand même pour rigoler, le carnaval. Donc là, on est un peu à cette limite, si c'est plus pour rire. C'est pourquoi ? Donc je retourne la question dans l'autre sens. Ça devient, on l'a remplacé par quoi, l'humour du carnaval ? Par du sacré. Ça devient sacré d'en rire de cette manière-là, comme ça, et de façon codifiée.
Voilà, vous avez la réponse à la question de Luz.
Oui, j'ai trouvé.
Si l'humour n'est plus là, il y a un vide. Par quoi il va être comblé, ce vide ? Par le sacré.
Par le sacré, oui.
Et concernant le carnaval, ce qui est fou, c'est que c'est une fête païenne, et qu'en fait, l'humour et la caricature, c'est une fête païenne aussi. Donc les fêtes païennes se foutent sur la gueule, on est mal.
D'ailleurs, j'ai des discussions avec un ami prêtre qui m'a un jour bien expliqué, ce n'est pas les religions qui ont un problème avec l'humour, et inversement, c'est le sacré. Et ça, c'est vrai pour tout. Vous êtes absolument acharné supporter d'un club de foot, c'est sacré, ce club de foot.
Vous êtes chasseur, la chasse, c'est sacré. Voilà. Ça doit être logé dans une zone du cerveau, ça. Faudrait étudier la chose. Hein. La dernière, concentrez-vous, Pierre.
Oula.
Je sais que vous avez bu un panaché, mais Luz dit « Le rire ne fait plus partie d'une émotion collective.
» Oui, je ne sais pas quand ça a été vraiment collectif. Peut-être le carnaval, par exemple, qu'on évoquait. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'engouement collectif, vraiment, pour quoi que ce soit. Mais je vois ce qu'il veut dire, c'est vrai. Il y avait... c'est marrant, ça a l'air d'avoir rien à voir, mais j'ai été une seule fois voir un concert de Johnny Hallyday. C'est, il est mort. Hein.
Non.
C'est à Bruxelles.
Quoi?
À Bruxelles, donc en plus les gens me reconnaissaient, je suis un peu connu quand même, donc dans les rues on me disait « Ouais, Pierre Collet là aussi, ouais, Johnny !» Et alors c'est génial, il y a des gens qui sont là pendant, ils jouent 4 soirs, les gens ils sont là les 4 soirs, hein. Ils attendent devant, ils vont plus voir le concert, c'est trop cher. Mais bon, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je suis revenu avec, vraiment très heureux, je suis pas grand fan de Johnny, mais j'avais trouvé ce moment tellement beau, et j'ai trouvé une comparaison, on dirait un grand match de foot, mais dans lequel il n'y a qu'un club. Tout le monde est d'accord, tout le monde est supporter, mais du même. C'est pas l'un contre l'autre, personne ne se tape dessus. Si vous n'aimez pas Johnny, vous n'y alliez pas. Bon. Donc ils sont tous là parce qu'ils aiment. Voilà. Ces engouements collectifs, je crois que l'humour parfois permettait de rire un peu tous ensemble de la même chose, parfois, ou en tout cas plus nombreux avec les mêmes. Parce qu'il y avait par exemple moins d'humoristes, alors il y a ceux qui ne les aimaient pas un petit peu, et puis tout le monde trouvait que Fernand Reynaud était quand même drôle, ou que Fernandel avait des grandes dents.
C'est peut-être sur scène, alors que le rire a sa meilleure expression d'émotion collective. Vous-même, vous faites de la scène.
Ah, j'ai découvert quelque chose, effectivement, c'est que, à la grande différence des journaux et surtout de mes dessins en direct à la télévision, sur scène, les gens ils payent pour venir, ce qui m'arrange bien. Et donc, je veux dire qu'ils font un certain effort, ils sont à moitié convaincus, il ne faut pas les décevoir, ce n'est pas plus facile pour autant. Mais on peut se mettre à faire de l'humour parce que théoriquement, vous êtes un peu en famille, quoi, au moins. Donc, oui, l'engouement collectif, il est plus sur scène que. Donc, nous sommes des courageux. Les dessinateurs de presse a osé encore le faire en s'adressant quelque part à tout le monde. D'ailleurs, Luz a arrêté.
Voilà. Il le fait autrement.
Oui, bien sûr. C'est très bien ce qu'il fait.
J'ai trois petites dernières questions. Ça a quel pouvoir une blague ?
Moi, je crois que peu.
Peu de pouvoir.
Isolément. Ouais. Mais souvent, elle va avec tout un autre discours qui va avec. Donc, une blague raciste, elle transporte un tout petit peu tout ce qu'est le racisme.
Elle véhicule.
Donc elle participe parfois d'un pouvoir qui est important.
Est-ce qu'il faut se méfier des humoristes ?
Oui. C'est un peu populiste par nature, l'humour. Peut-être pas pour tout le monde, c'est aussi clivant, d'accord. Mais les gens qui seront avec vous, ils sont très forts avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu dangereux parce que c'est une manière de faire. De séduire les gens en disant « je suis le plus drôle, aimez-moi » et de se faire aimer très fort, alors que « je suis le plus beau, aimez-moi », c'est pas si évident. Bon, faut pas croire que j'ai emballé super facile tout le temps avec des dessins comiques, hein, mais je veux dire, c'est parfois... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il faut se méfier un peu des humoristes, oui.
Le journal Le Soir, il est un petit peu plus frileux qu'avant avec vos dessins ou pas ?
Je le sens pas trop. Il y a des changements, oui, mais...
Quels changements ?
Oh, bah, y en a qui sont presque techniques, mais quand même un peu polluants. C'est par exemple que y a plus de gens qui lisent le soir. Je parle même pas de la circulation après des dessins tout seuls sur les réseaux sociaux, même dans le soir, est plus lu en ligne qu'en papier. Mm-hmm. Mais je continue à travailler pour le papier, c'est-à-dire quoi ? Oui, sur papier, mais surtout, mon dessin est en page 2, donc je demande ce qu'il y a en page 2 et 3. Et souvent, mon dessin colle avec le sujet qui est mis le plus en avant par le journal, et ça ne se voit que sur le papier. Sur l'Internet, après, tout est en défilé, et mon dessin, il va être tout seul par rapport à autre chose. Donc il faut maintenant le contextualiser un peu plus, il faut remettre un titre au-dessus. Voilà, Macron a dit que, on l'a fait tout à l'heure, voilà, le discours de Macron, voilà, comme un titre. Ça m'emmerde, parce qu'on perd l'efficacité de l'humour. Si on sait de quoi je vais parler, ben, on peut tout de suite en ce que je veux dire. Donc il y a des tas de petits changements comme ça qui sont, c'est pas de la frilosité, mais le journal va me dire ouais, je suis pas sûr que tout le monde va comprendre, faut que tu mettes ça, voilà.
Voir,
ça c'est un peu casse-pied.
Voir de l'excès de zèle.
Et puis alors après, il y a quand même l'époque, en général, le soir fait partie simplement de... il ne se pose pas la question tous les jours d'un courant général dans lequel on ose moins. Ça c'est clair que, de nouveau, pour tout ce qu'on a un peu évoqué avant, on pouvait se dire les gens vont bien comprendre que c'est pour rire. Maintenant, non, ils vont demander pourquoi j'aime pas celui-là, pourquoi j'ai fait ça. Je connais des dessins de moi. Et je ne suis pas conscient, j'essaye pas maintenant, je subis pas ça tout le temps, ça se fait un peu naturellement aussi. Mais je retombe parfois sur des dessins de moi qui ont 30 ans que j'oserais plus faire aujourd'hui.
Ah oui ?
Oui.
La dernière question, attention. Concentrez-vous, Pierre.
Oui.
Est-ce que c'est la fin de la caricature qui est en train de se dessiner ?
Ah ouais, mais c'est reparti pour 20 minutes, ça. Le dessin de presse ne vit pas des moments faciles et c'est pas certain que ça va pas disparaître pour diverses raisons. Alors, je vais pas raconter les derniers avatars d'un dessin d'un ami portugais qui a mis fin définitivement au dessin de presse dans le New York Times. Mm-hmm. On connaît un peu cette histoire, vous la retrouverez facilement sur Internet. Des problèmes de Xavier Gors dans Le Monde parce qu'ils sont emblématiques du fait que la rédaction ne soutient pas le dessinateur. Or, pour moi, un dessinateur de presse, c'est un triangle. Il y a le rédacteur en chef, le dessinateur et le public. Ça marche ensemble. Moi, je fais partie de la rédaction de mon journal. Je suis pas un mec à qui on achète des bonnes blagues comme ça ailleurs. Voilà. Et dernière étape, par exemple, parce que on pose parfois des questions sur l'avenir, et l'intelligence artificielle là-dedans. Si vous lui faites, vous lui apprenez à lire les 40 000 dessins que j'ai déjà faits, elle va savoir. Vous demandez un dessin de Kroll de plus sur tel sujet, elle va savoir vous en pondre un. Mais il manquera quelque chose, parce que c'est pas mon intuition du jour et tout. Oui, d'accord. Vous pouvez lui demander, elle, de vous en faire 50. Et rédacteur en chef, il m'en demande pas 50. Hein. Donc, il regardera dans tout... Oh, ben celui-là, il me plaît quand même bien, il est quand même pas mal, voilà, pour des tas de raisons qui seront des siennes. Et on n'aura plus besoin d'avoir un mec qui, ou une fille qui va emmerder son rédacteur-chef. On va, pourquoi tu ne peux pas monter ça, etc. etc. ou, voilà. C'est, donc, je ne suis pas optimiste sur le dessin de presse. Voilà.
Conclusion de cette conversation. On s'engage vers si l'humour disparaît et les caricaturistes. C'est remplacé par le sacré et l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle sacrée et hop, comme ça, tout est emballé. On va terminer là-dessus, on va boire un coup de
pied. Il restera quelques petits humoristes, quand même, quelques-uns. Allez,
quelques-uns. Oh oui, dans des salles, dans des bars. Dans des...
Voilà, un panaché.
Allez, à votre santé. Merci beaucoup, Pierre Kroll.
Merci.
On peut se connecter sur lesoir.be pour voir vos dessins de presse. Et puis, il y a vos albums, bien sûr, toujours disponibles. Et 28 minutes d'Arte, que vous pouvez voir là, comme ça, ça suit vers 20h, puis une fois par mois, le samedi.
Voilà.
Merci, Pierre. Voilà, c'était Bistroscopie. Ophélie Vivier en est la chargée de programme. Anaïs Reynard, la réalisatrice. Merci à Romain Luquiens à la technique et Mathias Alléon au mixage. Après le flash de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son invité, Joël Varenne, dans En Marge.
Franck Tillier, l'auteur de thrillers préférés des Français, est de retour en librairie. Par moins 40 degrés, plongé dans une enquête glaciale, Franck Tillier vous emmène à Norfairville, au cœur du Grand Nord canadien. Dans l'univers hostile de cette ville minière, personne ne vous entendra crier. Norfairville, le nouveau roman de Franck Tillier, chez Fleuve Édition.
En France, les crises sanitaires et économiques ont aggravé la précarité de millions de personnes. À la Fondation Caritas France, nous avons une conviction. La précarité n'est pas une fatalité. Nous soutenir, c'est s'engager pour une France plus fraternelle et proposer des solutions durables et innovantes pour les plus fragiles d'entre nous. Faites un don sur fondationcaritasfrance.org et bénéficiez d'une déduction